Samedi dernier, répondait à la question que vous venez d'entendre, Madame Monique Hébrard, Messieurs Alain Goudreau et Mohamed Harkoun, Monsieur le rabbin Askenazi et Monsieur le pasteur André Dumas. Voici ce matin les réponses de Monsieur Olivier Clément, du Père Henri Madeleine et de Monseigneur Paul Poupard. Et ensuite, la première partie de la discussion générale qui a suivi ces interventions. La parole est donc à Monsieur Olivier Clément.
Je suis une espèce de représentant anticipé de la renaissance de quelque chose. Puisque je suis né dans un milieu totalement non religieux, et c'est à la suite d'une longue recherche, à l'âge de 30 ans, que je suis devenu chrétien dans l'Église orthodoxe. J'ai eu l'impression que là, une porte s'ouvrait. Et je dois dire que, pour moi, il n'y a jamais eu, au fond, une spéculation sur le religieux. C'est un mot qui m'est assez étranger, mais plutôt, dirais-je, une question de vie ou de mort. Et il me semble que je retrouve ce sentiment chez beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui posent la question du sens même de la vie. Il me semble que nous sommes dans une société où affleure comme jamais le nihilisme. Et pour reprendre le thème d'aujourd'hui, je dirais que je ne sais pas s'il y a une renaissance du religieux, je pense qu'il y a un problème du sens qui est posé d'une manière de plus en plus aiguë. Et maintenant, nous sommes véritablement devant le problème du sens. Et je crois que cette renaissance, disons, du religieux, elle sera féconde si elle met fondamentalement l'accent sur le mystère de la personne et de la communion des personnes, sur l'altérité de Dieu et donc l'altérité de l'homme et du prochain, si elle accorde l'intériorité et la transcendance. Et c'est, je crois, la seule possibilité de remettre à leur place et les sciences humaines et les grandes idéologies qui prétendent expliquer l'homme. Et quand on prétend expliquer l'homme, on peut aussi arriver facilement à le manipuler. Nous avons donc besoin de retrouver non pas une foi dans l'homme, mais de découvrir que quand l'homme est raclé, n'est-ce pas, comme il a été raclé, non seulement par des idéologies, mais par des choses qui s'appellent par exemple le goulag, eh bien, où il se désintègre, ou bien il se découvre à l'image de Dieu, l'homme ouvert sur une réalité qui le dépasse et qui le suscite. Et je crois aussi que cette renaissance religieuse sera féconde si les hommes qui portent en eux un peu de cette foi ne prétendent pas légiférer, s'ils sont extrêmement humbles et s'ils se contentent de suggérer, et de suggérer d'abord à travers leur existence, qu'il y a un sens et que le dernier mot n'appartient pas au néant. Il est certain que le monde médiéval a eu tendance à mettre l'accent sur Dieu contre l'homme, que le monde moderne a mis l'accent sur l'homme contre Dieu. Peut-être sommes-nous appelés à dire qu'on ne peut pas penser l'homme et Dieu séparément. On doit les penser ensemble. Et pour moi, c'est cela même le mystère du Dieu fait homme, le mystère du Christ.
En écoutant Olivier Clément, après le pasteur André Dumas, on ne peut pas ne pas penser que le monde chrétien s'est enrichi de ses différences, de ses conflits et de ses déchirements. Les terribles enfants de la religion qu'évoquait le pasteur Dumas, en concluant son intervention, sont peut-être aussi nécessaires à la vitalité et à la pérennité des religions. Et la parole est maintenant au père Henri Madeleine, provincial de la Compagnie de Jésus.
Bien, parlant de l'Église catholique, moi je dirais que ce qui me frappe dans la période récente, c'est un décentrement assez extraordinaire de son lieu habituel. La capitale est Rome, mais les forces vives sont en train, doucement, avec beaucoup de convulsions, de passer ailleurs. Le pape Paul VI a dit un jour, aujourd'hui, la question sociale est devenue mondiale. Je dirais qu'il est frappant, quand on circule dans d'autres pays que la France, de voir comment un certain nombre de réalités nouvelles dans des cultures qui sont assez différentes des nôtres sont en train de prendre avec une greffe chrétienne. Ce déplacement correspond évidemment à une faiblesse démographique chez nous. Elle pose beaucoup de questions, mais nous sommes sortis d'un temps où les interlocuteurs des Européens religieux qui se déplaçaient dans le tiers-monde étaient des Européens. Lorsqu'on va en Afrique, lorsqu'on va en Amérique latine, lorsqu'on va en Indonésie, on rencontre maintenant des gens issus de leur culture nationale qui essaient de faire la synthèse entre la culture de leur propre pays et ce christianisme qu'ils ont reçu. Et c'est ça qui sème perturbation, enthousiasme et inquiétude. C'est-à-dire que c'est un certain rapport entre la culture, la nation, l'identité d'un peuple et ses structures idéologiques, ses organisations politiques. Et il y a comme un déport de toute une réalité profonde humaine du côté, évidemment, de la célébration commune, du côté de la rencontre commune par rapport à des institutions qui ont été découvertes mensongères. Et je suis frappé par ce qui se passe dans les pays de l'Est, et qui n'est pas un phénomène spécifiquement catholique, est un phénomène religieux. Il est frappant quand on rencontre des gens des pays de l'Est, et très précisément en Union soviétique peut-être, ou chez les dissidents, d'entendre cette formule « quand j'ai commencé à penser ». Ça veut dire « quand j'ai commencé à laisser tomber les écailles qui étaient sur mes yeux et à découvrir ce monde qui n'est pas exactement celui qu'on m'a annoncé, celui qu'on m'a appris ». Et je crois que dans nos propres pays, il y a un symptôme auquel nous ne prenons pas garde, qui est que s'il est vrai qu'il y a une génération post-chrétienne, il y a peut-être aussi une génération post-athée. C'est-à-dire qu'elle n'habite pas exactement, pour cette deuxième, les idéologies de ses parents, les idéologies qui l'ont enfantée. Et l'on assiste peut-être dans nos pays à une résurgence de la découverte d'un sens lié au christianisme du côté d'une source qu'on n'avait pas l'habitude de voir jaillir. Alors cela me conduit à dire que, évidemment, le grand problème qui a été évoqué par M. Harkoun, c'est le problème de la modernité. Je ne voudrais pas majorer ce qui se passe dans le tiers-monde, parce que le tiers-monde lui-même est affronté à cette question très difficile de la modernité. Et il y a comme une réponse entre deux mondes insatisfaits. Et pour ce qui est d'une autre, il est évident qu'il comprend un peu mieux qu'il est difficile de vivre dans un monde objectif, dans un monde où le sens est renvoyé à un ultime, dans un monde où le sens est perdu. Il y a une espèce de tristesse de l'objectivité, il y a une espèce de tristesse de la satisfaction économique qui, nous le savons, est insatisfaction profonde. Et ce qui me frappe alors dans la pensée de Jean-Paul II, ou dans sa manière d'être, c'est qu'il insiste bien entendu très fortement désormais sur l'amont, ce que j'appellerais l'amont du christianisme, peut-être faudrait-il dire même une retraditionnalisation. C'est-à-dire que il y a comme une perception que dans ce balancement des sociétés entre l'effacement de la différence croyante pour construire le monde et l'affirmation de la singularité chrétienne, eh bien, il faut désormais mettre l'accent sur l'affirmation de la singularité chrétienne. Et ceci pose une question difficile dans nos sociétés pluralistes, où l'incroyance est un fait massif, notoire, et personnellement, je crois que le christianisme, le catholicisme, n'a pas de sens s'il n'est pas capable de penser en même temps sa propre identité et ce rapport à une altérité. Évêque de Rome et fils de l'humanité, comme il a été dit à l'UNESCO, depuis longtemps dans les encycliques, il y a un discours qui peut paraître un peu vieillot, qui parle des hommes de bonne volonté. Je crois que c'est l'indication qu'il y a ailleurs que dans les frontières de la religion catholique, d'autres hommes capables d'entendre que cette vérité n'est pas enfermée dans une religion, mais qu'elle a sens pour la totalité de l'humanité.
Après avoir entendu le pasteur André Dumas, Olivier Clément et le père Madeleine, il semble que les héritiers séparés du message chrétien soient singulièrement proches. Peut-être y a-t-il plus de sensibilité, d'émotivité chez Olivier Clément dans sa réponse à la tristesse de l'objectivité que vient d'évoquer le père Madeleine. Le cheminement dans la recherche du sens n'est pas le même, mais peu importe, puisque les différences sont enfin fraternelles et solidaires. Il reste à Mgr Paul Poupart, recteur de l'Institut catholique de Paris, la difficulté de parler le dernier alors que tout semble avoir été dit, avant que le débat ne soit commencé. Monseigneur, à vous la parole, Carmen.
Oui, effectivement, j'ai le sentiment que tout a été dit, et fort bien, et mieux que je ne saurais faire. Et en écoutant tous les intervenants, je me ressouvenais de cette parole d'un philosophe juif, je crois, Quand la parole de Dieu frappe le rocher, il jaillit beaucoup d'étincelles. Réveil du religieux en cette fin de siècle qui est une fin de millénaire. On peut s'interroger, on l'a fait, sur le phénomène, son ampleur, ses motivations, ses conséquences, et plus encore sur son contenu. On a souligné, et à bon droit aussi, ce que ce phénomène que l'on constate peut receler d'ambigu, je dirais volontiers pour ma part d'ambivalent, tant il est vrai qu'il n'y a pas d'acte humain chimiquement pur, fût-ce en religion. Parler de résurgence du religieux, de résurgence du sacré, de résurgence du divin, indique que nous hésitons sur les termes et donc sans doute sur les contenus. Mais peut-être y a-t-il derrière ces hésitations du langage une perception assez massive. Et je crois que c'est Olivier Clément qui disait que devant une certaine montée de néant, on sentait comme l'affirmation d'un vouloir vivre et donc d'une recherche du sens, avec une prise de conscience que l'homme, devant ces interrogations fondamentales que le progrès humain a transformées mais a laissées fondamentalement inchangées, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la souffrance, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que la mort? En définitive, la recherche de réponses, et de réponses qui ne soient pas abstraites, mais vivantes, c'est la manifestation d'une résurgence. Et peut-être que ce réveil manifeste la recherche, parfois désespérée, et parfois galvaudée, on l'a dit tout à l'heure aussi, d'un ailleurs. Et d'un ailleurs dans lequel on trouve la force et le courage de vivre, et de s'opposer aussi parfois à ce qui nous apparaît comme menace, non seulement sur nos moyens de vivre, mais sur nos raisons de vivre. Il y a sans aucun doute, dans le réveil religieux, le besoin de se retrouver, et de se retrouver pleinement comme homme, à l'image de Dieu, c'est-à-dire à la fois reconnaître une dimension de fils et une capacité, une vocation de père.
Merci, Monseigneur. Et maintenant, tous les membres du plateau s'étant exprimés, la parole est au public. Au premier intervenant, monsieur, vous avez un micro. À vous la parole.
Monseigneur Poupart a parlé de la fin du millénaire. N'y a-t-il pas un phénomène de temporalité dans la résurgence religieuse? On parle de l'ère du Verseau. On parle de l'église de Philadelphie. On parle du millénarisme. On parle de la guerre atomique. Est-ce que, dans le tréfonds de chacun de nous, il n'existe pas une grande peur, comme celle de l'an 1000, et que cette peur appelle un sentiment et un renouveau religieux?
Monseigneur.
Je répondrai d'un mot que le pape Jean-Paul II, dans sa première encyclique, Redemptor Hominis, à la veille de cet an 2000, se réfère à un registre tout à fait différent. Et pour lui, c'est le temps d'un nouvel avant et d'une nouvelle espérance. Alors, peut-être qu'il y a en effet chez certains, comme vous le dites, cette grande peur de l'an 2000. Je n'en suis pas, pour ma part, tout à fait sûr. Je crois que la psychologie des hommes oscille beaucoup et que, de mois en mois, d'année en année, nous voyons l'imaginaire et l'utopique prendre des mouvements qui, certes, sont difficilement réductibles à un horizon de ce genre aussi fixé.
Votre question a suscité d'autres réponses, Madame Monique Barra.
Il n'en demeure pas moins que dans tous les groupes de réveil spirituel, très différents d'ailleurs, il y a énormément de gens qui ont reçu, entre guillemets, car c'est le mot qu'ils emploient, reçu des prophéties sur une fin des temps assez proche, sur des catastrophes finales. Il y en a dans les communautés charismatiques, il y en a dans des communautés de méditation yoga, il y en a dans des communautés rabbiniques, il y en a dans des communautés néo-rurales qui ont un rapport avec le religieux tout à fait ambigu, mais cette convergence ne manque pas d'être étonnante. Et certains, dont les communautés charismatiques, ajoutent une autre dimension. Ils ne voient pas seulement la catastrophe eschatologique, mais l'autre aspect de l'eschatologie, c'est-à-dire l'avènement d'un monde nouveau, l'avènement du règne du Christ.
Pasteur Dumas.
Je voulais juste faire deux remarques. D'abord, rappeler que le mot apocalypse, pour l'homme actuel, signifie en gros terreur. Vous rappelez l'année dernière, Apocalypse Now, qui était d'ailleurs la traduction film de ce roman extraordinaire de Conrad qui s'appelle Au fond des ténèbres. Alors que bibliquement, Apocalypse signifie dévoilement et révélation. Alors je crois qu'il faut quand même toujours se dire que si la Bible se termine sur une apocalypse, ce n'est pas la terreur, mais c'est pour celui qui croit l'idée qu'il n'a pas vécu d'une illusion, mais qu'il voit enfin ce qu'il n'a fait que croire en marchant. Ça, c'est la première remarque. Et la seconde remarque, alors à propos du signe du Verseau, moi, je pense toujours qu'il faut se souvenir que l'être humain occidental, mais peut-être au fond du monde entier, il vit sa semaine sous le rythme de l'astrologie, et ici, il vit son année sous le rythme de la liturgie chrétienne. C'est-à-dire, vous savez, tous les noms de la semaine, c'est à cause des planètes. Hein. Et au contraire, les fêtes de l'année, c'est au nom, disons, des fêtes bibliques. Et moi, je me dis tout le temps, qu'est-ce qui guide les gens? Est-ce que c'est l'astrologie ou est-ce que c'est la théologie? Mais c'est vraiment pas pareil pour moi.
Pas la même chose en effet. Monsieur le rabbin Askenazi, vous avez demandé la parole. À vous le micro.
Une expression biblique comme « la fin du monde n'est pas d'origine biblique, c'est la fin des temps de telle ou telle civilisation ». Et nous sommes renvoyés effectivement à la catégorie d'une part de l'apocalypse, mais surtout de l'eschatologie, dans le sens strict. Or, d'après l'enseignement biblique, la conscience religieuse traditionnelle, l'eschatologie n'est pas forcément catastrophique. Elle peut être bienheureuse, mais il y a une clause. Et précisément cette clause, c'est l'interpellation morale. Monsieur le pasteur Dumas avait posé la question tout à l'heure, que signifie croire en Dieu? Pour nous, croire en Dieu n'est pas une affaire de définition abstraite, intellectuelle, qui mène parfois à de la philosophie, beaucoup plus qu'à de la théologie. Mais c'est la confiance qu'une certaine promesse qui a été faite par le seul fait que nous avons été créés, nous sommes dépositaires d'une promesse d'un monde vrai, qui n'est pas le monde embryonnaire que nous traversons, ce monde-ci, qu'une promesse sera accomplie. Et beaucoup d'hommes, en fin de crise culturelle contemporaine, ignoraient, avaient oublié, ne savaient pas qu'il y avait une telle promesse. Le retour aux sources leur rappelle cette promesse. Et il est important de voir qu'avant de donner la loi, le récit biblique, dès le début, depuis la Genèse, nous raconte l'histoire de cette promesse, que quelqu'un, effectivement, le Créateur, s'est révélé aux hommes qu'il avait créés pour leur confier un projet, et ce projet est plein de promesses. Or, cette promesse a une clause, et c'est précisément la loi morale. Je ne sais pas si l'on peut dire avec autant d'intensité, de ferveur, à la fois un pessimisme total et un optimisme radical. Il est bien évident que l'humanité contemporaine s'est donné les moyens de mettre fin à l'histoire du monde. D'où viendrait le sursaut moral qui empêcherait ce qui risque d'arriver si la morale n'intervient pas effectivement comme base de la recherche spirituelle et du retour à l'exigence religieuse? Et je ne sais pas d'où pourrait venir ce sursaut moral. J'en donnerai un seul exemple. Les sciences et les techniques font que l'humanité peut donner à manger à leur faim à tous les hommes, femmes, enfants, vieillards qui vivent sur la planète. Qu'est-ce qui empêche? Ce qui empêche, c'est l'état du problème moral. Dans ce que je dis là trop rapidement, je voudrais mettre à la fois, non pas le pessimisme le plus radical, ce n'est que, malheureusement que du réalisme, et l'optimisme le plus radical. Je fais partie d'un peuple qui a traversé toutes les catastrophes. Mais en tout cas, l'eschatologie, ce n'est pas la fin du monde, suivant les traditions bibliques, c'est la fin d'un temps d'histoire. Quel sera le prix à payer pour passer dans un temps plus moral? Eh bien, cela dépendra de la volonté morale. Et alors, il est important aussi que les religions retrouvent le souci de la moralité comme voie de salut. Là, le judaïsme avait été un peu un cas particulier, et peut-être qu'il est nécessaire de relire la Bible en hébreu.
Olivier Clément.
Oui, je voudrais dire plusieurs petites choses. C'est que ce n'est pas nous qui pouvons casser le monde, en définitive. Le monde est entre les mains de son Créateur. Nous ne pouvons pas le briser. Et comme disait le patriarche Athénagoras, un grand patriarche de Constantinople, il disait finalement « Toute situation historique, si nous la voyons dans une perspective spirituelle, peut devenir une situation de résurrection, peut devenir une situation d'enfantement. » Et cela me paraît très important, et peut-être alors faudrait-il dire que cela n'est ultimement possible que dans la mesure où nous sommes attachés à l'idée d'immortalité. Et je dirais, dans la tradition judéo-chrétienne, à l'idée de résurrection. Il me semble que dans l'Évangile, deux choses sont étroitement liées. C'est l'annonce de la résurrection, c'est-à-dire que la mort n'aura pas le dernier mot, que tout sera vivant. Le moindre instant où j'ai eu les veines pleines d'existence, tout sera vivant, tout s'inscrit à jamais dans le présent de Dieu, et en même temps, l'amour des ennemis. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir des ennemis ? Parce que je suis profondément habité par l'angoisse, parce que j'ai peur de ma propre finitude et de ma propre mort. Et alors je fuis mon angoisse en disant « c'est la faute de l'autre, j'ai besoin d'ennemis ». Mais si j'ai en moi la certitude profonde de l'immortalité, si j'ai en moi la certitude profonde de la résurrection, alors je dirais que je n'ai plus besoin d'esclaves et je n'ai plus besoin d'ennemis. Je n'ai plus besoin de projeter cette ombre parce qu'au fond de moi, l'angoisse peut devenir confiance.
Merci Olivier Clément. Mauvais la prise.
Oui, permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que si notre soirée se poursuit dans la ligne qui se dessine devant nous, nous démontrerions, je crois, qu'il n'y a pas renaissance religieuse, mais qu'il y a persistance dans une tradition qui pèse lourdement sur nous et qui fait que nous ne pouvons pas lire notre temps, ce qui se passe dans notre temps. Permettez-moi de dire qu'à mon goût, dans cette soirée de réflexion, il est fait un peu trop référence au voyage de Jean-Paul II, pour qui j'ai le plus grand respect. Il est fait un peu trop référence au langage traditionnel chrétien. Et nous sommes dans l'expression traditionnelle chrétienne de la religion. Je ne dirais pas du judaïsme, il est isolé, mais quand même, la façon dont le judaïsme a été présenté, avec la référence à l'Holocauste et la référence à la sanctification de l'histoire par une accentuation spéciale qu'apporte le judaïsme dans l'expression religieuse, cela réfère à ce que je disais dans mon propos initial, à savoir une approche de croyant strict, d'obédience stricte. J'aurais pu moi aussi vous dévider la croyance stricte du musulman et vous dire qu'en islam les choses se passent ainsi et que l'islam sanctifie l'histoire de telle et telle façon. Je me suis interdit de le faire, comme je me l'interdis toujours de le faire, parce que ce qui est requis de nous, c'est un langage à la mesure des problèmes qui sont posés dans le monde et à la mesure des problèmes qui sont posés quant au rôle de la religion dans le monde. Et non pas dans les limites, permettez-moi de le dire malgré tout, étroites de l'Occident. Et le premier événement important qu'il faut considérer, c'est l'insertion non pas du christianisme, non pas de l'islam, non pas du judaïsme et des autres religions qui existent, mais de ce phénomène religieux dont nous ne savons pas parler parce que nous sommes ignorants à son égard. C'est cela qu'il faut évoquer. C'est vers là qu'il faut porter l'attention. Qui ne voit aujourd'hui que ces appels à la morale, à la spiritualité, à tout ce que l'on veut, ne tombent pas dans un cadre socio-culturel, dans une psychologie, dans une configuration psychologique de la personne humaine d'aujourd'hui, dans un terrain qui puisse les accueillir et leur permettre de fructifier. Il y a une définition que j'aime rappeler d'un penseur musulman du XIe siècle, qui donne à réfléchir. Je la cite parce qu'elle donne à réfléchir, et non pas pour vous dire qu'en islam, les choses se passent ainsi. « Je suis resté tendu, disait-il, vers la saisie du réel vrai. » En homme, le réel vrai, ce que le Coran appelle « al-haq », l'absolu de Dieu. Je suis resté tendu vers la saisie du réel vrai. Nazatul haqqa bil haqqi lil haqqi. me basant, en m'agrippant au réel vrai, en m'attachant au réel vrai, pour rechercher, tendre vers le réel vrai. Il répète trois fois ce mot. Parce que ce mot désigne l'absolu. Et il y a toute la personne humaine qui est tendue effectivement vers l'absolu, et ce mot qu'il a prononcé traduit son rapport avec Dieu, comme vous disiez, Monseigneur. Mais ce n'était pas un rapport qui était resté subjectif. C'était Abdelkader al-Jilani qui est devenu un saint populaire et qui a fondé, à travers la totalité du monde musulman, des adeptes jusqu'à nos jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre socioculturel qui était accueillant pour cette expérience. Où est, je vous prie, dans nos sociétés actuelles fondées sur la productivité, l'économisme, etc. Ce n'est pas pour critiquer, c'est pour réfléchir. Où est le cadre socioculturel qui pourrait être accueillant à ces évocations que certes nous désirons peut-être en tant que croyants, mais il faut voir ce qui peut être réalisé et il faut voir le fonctionnement réel de ces affirmations de foi, d'éthique, etc. dans nos sociétés telles qu'elles sont et telles que nous sommes à l'intérieur de ces sociétés. C'est la confrontation du religieux et du social qu'il faudrait faire, je dirais, pour la première fois dans l'histoire des religions, de façon rigoureuse. Car pendant des siècles, nous avons tous fait des sermons, et nous continuons à en faire loin de l'histoire. Je m'excuse d'avoir parlé un peu, peut-être trop long, mais c'est pour ramener, je crois, le problème qui nous est posé aux vraies questions qui sont là. C'est une immense question, intégriste, progressiste, mystique, raisonnable ou engagée, que de concepts fondamentaux, que de lignes fondamentales de la réflexion tournées vers les problèmes d'aujourd'hui. C'est cela qu'il faut considérer, et non pas, pardonnez-moi, des considérations tout à fait traditionnelles. On a même parlé, sans broncher, de retraditionnalisation. Sans broncher. Or, la retraditionnalisation, sans connaître ce qu'est, là aussi, la tradition, tous les chercheurs scientifiques se cassent la tête pour savoir ce que c'est et pour définir ce que c'est. Mais comment peut-on avancer dans l'obscurité ? On l'a fait jusqu'ici, me direz-vous. La foi soulève des montagnes. Certes, mais on aimerait un peu plus de lumière pour nous dégager des affrontements de guerre que nous sommes en train de vivre. Et que la religion obscurantiste, comme l'a dit quelqu'un, alimente. Il y a tout l'aspect obscurantiste de la religion que nous ne pouvons pas conjurer par de simples appels à la foi.
C'est une véritable relance du débat que nous propose Mohamed Harkoun, mais les exigences de l'horaire nous obligent à vous demander de reprendre l'écoute samedi prochain si vous êtes curieux de la suite de cette discussion. Par ailleurs, c'est jeudi prochain, 16 octobre, 21h, à la Maison de Radio France et au Studio 105, qu'aura lieu le prochain enregistrement public de cette émission. Et si vous êtes intéressé ou incertain sur les deux questions que voici, qui sont les Berbères ? Peuvent-ils poser en termes nouveaux la question de l'ensemble méditerranéen ? Question auxquelles répondront Mme Camille Lacoste, maître de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, M. André Mandouze, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, Vincent Monteil, professeur honoraire à l'Université de Paris 7 et auteur des livres « L'Islam noir et le Maroc » publiés aux éditions du Seuil, Abdelkader Amani, président de l'Académie berbère d'échange et de recherche culturelle, Maxime Rodinson, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et auteur des livres « Les Arabes » publiés aux presses universitaires de France et « La fascination de l'Islam » publiés aux éditions Maspero, et Ali Sayad, ethnologue et rédacteur en chef de Tissuraf, revue d'études berbères. Donc, si vous désirez participer à ce débat, vous pouvez demander des invitations en appelant dès lundi le numéro de téléphone de l'émission 224 36 72 à samedi prochain.